Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, nous sommes le 24 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Lynria et je suis accompagnée de Cyrus aujourd'hui. Bonjour Cyrus.
Salut Lynria.
On prend les mêmes, on recommence, on a fait l'ouverture, on fait la fermeture.
C'est ça, les meilleurs pour la fin.
Exactement. Et nous accueillons Vincent Vergon-Jeanne, donc PDG de Lucky Duck Games. Salut Vincent.
Salut.
Salut Vincent.
Merci de m'avoir dans votre magnifique studio cannois. Ouais,
on est pas mal, hein.
Ah oui, on est bien. On est très bien là, merci.
Un peu plus au calme en plus, c'est bien. Dans notre petite bulle. On va commencer par le fil rouge, les petites questions qu'on a posées à tous nos invités donc, depuis le début du salon, en rapport avec Cannes évidemment. Pour toi, Cannes, ce serait plutôt jeu ou cinéma ?
Ah bah c'est jeu en fait. Hein. Moi, je suis jamais venu à Cannes que pour le Festival International du Jeu. Alors évidemment, il y a l'emblème, mais tous mes souvenirs, en tout cas personnels et liés à ma société, ça reste le festival. Donc jeu.
Et plutôt bière ou champagne ?
Plutôt bière. Plutôt cidre même. Je sais pas, on a fait beaucoup de crêperies à Cannes. Je sais pas pourquoi.
Bizarre.
Non mais tu sais, comme c'est énorme comme festival, etc. Donc du coup c'est difficile de trouver des restaurants le soir. Donc c'est des crêperies, je sais pas. On arrive toujours avec. Donc ça sera cidre.
Ok, très bien. Plutôt camping ou Martinez ?
Camping ou Martinez ? Non, Martinez. Martinez, enfin plutôt Airbnb en fait.
Oui, bien sûr. Mais
excuse-moi, je prends toujours l'option C en fait.
Non, mais il faut choisir entre les deux.
On a trouvé le Zephyriel Bis, tu vois, celui qui répond à côté des questions.
Systématiquement.
Je suis désolé, je m'appelle Vincent, bonsoir.
Plutôt off ou dodo ?
Plutôt off à la maison.
D'accord.
Ouais.
Donc jeu dans le Airbnb du coup.
Ouais, voilà, c'est ça.
Des protos.
Ouais, en fait. Je pense qu'on a été spoilé par le fait que, en tant qu'éditeur, j'ai la chance de pouvoir essayer des jeux dans un confort absolu, au calme avec l'auteur, etc. Et du coup, le off, c'est trop pour moi. J'ai du mal. Hein. Donc voilà. Okay.
Je comprends. Plutôt salon ou festival ?
Plutôt festival.
Et enfin, plutôt pro ou perso, on s'en doute, mais bon.
Plutôt pro en fait. J'arrive pas à faire ni un salon ni un festival sans avoir une casquette d'éditeur. Ce qui m'embête parce que j'aimerais bien m'asseoir et jouer en fait. J'aimerais bien profiter de ces trucs-là. Donc malheureusement, ça restera toujours la casquette pro.
Ouais. Très bien. Merci pour ces premières réponses à ce fil rouge. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous parler de la genèse de Lucky Duck ?
Absolument. Alors, pour la petite histoire, en fait, moi, je viens du monde du jeu vidéo. J'ai monté deux sociétés de jeux vidéo depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, je faisais des jeux exactement qui s'appelaient free-to-play, c'est-à-dire des jeux gratuits, mobiles, etc. Et on cherchait à diversifier un petit peu les produits qu'on vendait à ces joueurs. Et pendant 10 ans, on s'est pris des plâtres, essayé de vendre des t-shirts et des trucs. Et il y a 3 ans de ça, mon frangin vient me voir en me demandant des visuels d'un de mes jeux vidéo qui s'appelait Vikings Gone Wild parce qu'il voulait faire un prototype. Et je lui dis, écoute, je te donne les visuels seulement si tu prends ces visuels pour en faire un jeu de société de ce jeu vidéo-là.
D'accord.
Et il prend 6 mois, on se retrouve chez mes parents, j'essaye le jeu et je tombe complètement amoureux de ce truc-là.
Mmh. T'étais joueur de jeu de société
J'étais à peine. En fait, mon frangin et moi, on jouait beaucoup quand on était enfant, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas joué des jeux modernes. Mmh. J'essaye, je tombe complètement amoureux et on passe les 6 mois d'après à redévelopper ce truc-là. Et plus on développe le jeu de société, plus je m'aperçois que ma société de jeux vidéo n'est pas du tout équipée pour être un éditeur de jeux de société.
Ouais. Qui s'appelait comment
Alors qui s'appelait Everyday I Play, qui s'appelle toujours d'ailleurs en fait. Et je décide de monter une nouvelle structure qui s'appelle Lucky Duck, qui serait dédiée justement à ça. On fait un Kickstarter au mois de juin 2016, qui est un énorme succès pour nous. On a plus de 3000 backers, on fait 250 000 dollars. Et qui vraiment démarre la jeunesse de la société. Et ce qui était intéressant pour nous, en fait, c'est que du coup, il y avait donc cette histoire d'adapter un jeu mobile ou un jeu PC en jeu de société. Et un pont vraiment intéressant avec beaucoup de joueurs de jeux vidéo qui nous ont dit « Ah, merci d'avoir fait ce jeu de société. Je vais pouvoir jouer à ce jeu maintenant avec mon enfant autour de la table. » Et on a vraiment trouvé notre mission initiale autour de cette idée d'aller chercher des propriétés intellectuelles de jeux vidéo et de s'en servir comme pont ludique pour amener le reste de la famille autour de la table et d'un peu de les déconnecter. Alors c'est un peu étrange d'aller chercher des... Mais c'est vraiment l'idée d'aller chercher des mondes ludiques digitaux pour les amener autour de la table.
Donc ça, c'est ce qui fait le... le fondement de l'entreprise, en fait.
Voilà,
c'était l'idée première.
Exactement, c'est vraiment les deux premières années de la société ont été basées là-dessus. On a fait Vikings Gone Wild, on a fait Zombie Tsunami, on a fait Fruit Ninja, Jetpack Joyride Ride qui arrive au mois de mai en boutique.
Et puis tout ça, ce sont des jeux adaptés d'un jeu vidéo.
Exactement, ce sont tous des jeux vidéo. Venant de ce métier-là, c'était beaucoup des copains que je... Moi, j'ai pas fait... Pendant 10 ans, j'ai fait la GDC, qui est la plus grosse conférence de jeux vidéo à San Francisco, et pas tellement le Festival de Cannes. et donc, du coup, tout ça, c'est des copains que j'ai appelés. Je dis, écoute, je te propose de faire ça. Ouais. Voilà, donc ça, c'est la genèse.
D'accord. Et alors, tu peux nous parler peut-être un petit peu de Vikings Gone Wild, le Kickstarter.
Comment ça s'est passé? Absolument.
Coup, c'était votre premier Kickstarter.
Absolument.
Vous étiez connu plus par l'entreprise de jeux vidéo, j'imagine, peut-être?
Alors voilà, en fait, l'avantage quand on prend un jeu vidéo, c'est que du coup, il y a beaucoup de joueurs qui connaissent au moins, enfin, qui sont un pont. Alors, et quand c'est son premier Kickstarter, pardon, je m'appelle Vincent, bonsoir. C'est quand même, c'est un avantage de venir avec une communauté qui vous connaît pas forcément pour les jeux de société que vous faites, mais au moins pour les jeux vidéo que vous avez fait. Et ça nous a vraiment aidé à démarrer. Il s'avère aussi que Julien a vraiment fait un jeu qui, en 2016, se démarquait. C'était un jeu de deck building qui mélangeait autant un marché fixe qu'un marché de cartes en rivière, je crois que ça s'appelle, avec une thématique visuelle très, très, très attirante. Et c'est un jeu qui, finalement, après le Kickstarter, a eu un très gros succès en boutique pour nous. On a vendu plus de 50 000 de boîtes en 2 ans.
Juste en boutique
En boutique, juste en boutique, voilà. Il a été localisé en allemand, en polonais, il était vendu aux États-Unis, au Canada, évidemment en France, en Belgique. Donc, du coup, voilà, donc c'était notre premier. Ce premier titre nous a vraiment permis de mettre le pied dans la porte, entre guillemets, des distributeurs aussi, parce que ben voilà, on a découvert ce milieu de la distribution, de la localisation. Et il nous a permis aussi d'aller décrocher d'autres propriétaires intellectuels de jeux vidéo et de les convaincre que c'était un modèle viable et intéressant.
Okay. Et le Kickstarter, vous l'aviez monté sur le nom de l'entreprise de jeux vidéo, du coup?
Alors non, c'était tout de suite Lucky Dog Games. Ouais. En fait, juste avant le Kickstarter,
Comment t'as attiré, excuse-moi, je te coupe à moitié, mais comment t'as attiré la communauté? Communauté de jeux vidéo, du coup?
Pendant la campagne, il y avait un gros bandeau dans le jeu vidéo.
Dans le jeu, ouais.
Voilà, d'accord, exactement. Ouais. C'était l'avantage, c'est que du coup, ce sont des joueurs actifs, quotidiens. Qui, du coup, on est capable de capter tous les jours, en fait, dès qu'ils reviennent sur le jeu vidéo, de les ramener sur la campagne.
Hein. Vous avez mis une pub super relou là,
voilà.
Qui
note, là, en bas de ton jeu. Voilà, c'est ça, ouais.
Free to play, mais avec le kit des games, en gros. Quoi.
Et puis, il n'y avait pas que ça, en fait. Hein. On a vraiment. Alors, c'était surtout moi, en fait. On a passé 6 mois à faire du pré-marketing, à être présent sur les groupes Facebook de jeux de société. On a imprimé plus de 50 prototypes qu'on a envoyés partout dans le monde. Il y a eu au moins une trentaine de vidéos.
Une bonne communication, voilà. C'est le secret.
Dès qu'on fait un petit peu, dès qu'on regarde un petit peu les campagnes qui à succès, elles ont toutes été cherchées. De la rayonnance auprès de youtubeurs, de blogueurs, etc. Donc on a pris le temps. En fait, du coup, comme c'était notre première, puis que c'était vraiment financé par la société de jeux vidéo à l'époque, on n'était pas
pressé.
Voilà, on n'était pas pressé. On a essayé de prendre notre temps et de démarrer uniquement quand on serait prêt. Et ça a vraiment payé parce qu'au final, on a aussi été montrer le jeu aux États-Unis sur 3 conventions. On a fait BGG Spring, BGGCon et d'autres conventions américaines. Donc du coup, au moment où le Kickstarter a commencé, le jeu était déjà joué aux États-Unis également et avait un peu rayonné aux États-Unis. Donc voilà.
Ok, très bien. On passe peut-être à un autre jeu.
Oui, moi je voulais parler des deux jeux qui sont présentés à Cannes et qui vont bientôt sortir. Voilà, sont attention, je me lance parce que mon anglais est merveilleux. Kingdom Rush et Jetpack Joyride.
Bravo.
Merci. Alors moi j'ai testé hier du coup Jetpack Joyride, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très malin, ça se joue rapidement, c'est rigolo et effectivement quand on a déjà joué au jeu mobile, on ne peut que apprécier le jeu de société.
Donc Jetpack Joyride, écoute, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été développé par Halfbrick, qui est un éditeur de jeux mobiles australien. C'est un jeu qui a été téléchargé plus de 800 millions de fois.
800 millions.
800 millions, c'est le chiffre, c'est le vrai chiffre. Parce que Fruit Ninja, c'est 1,5 milliard.
Guéri Pierre, hein, fais gaffe.
1,5 milliard.
Ouais, Fruit Ninja, qui est un autre jeu qu'on a fait via Asmodée, c'était 1,5 milliard de téléchargements. Et Jetpack Joyride, c'est 800 millions de téléchargements. C'est vraiment les plus gros blockbusters du jeu mobile, etc.
Donc coup, c'est que vous avez choisi, quoi.
Voilà, exactement. C'est les choses très. Voilà, qu'on reconnaît en tout cas, ou en tout cas une partie de la population reconnaît. Et Jetpack Joyride, alors en fait, notre système de développement, on pense ne pas du tout avoir la science infuse pour faire un bon portage de jeux mobiles en jeux de société. Et la technique qu'on a, c'est qu'en fait, on travaille avec un réseau de designers. Et on leur annonce, donc ce sont des espèces de compétitions privées où on leur dit, voilà, on a récupéré Jetpack Joyride et vous avez 3 mois pour nous fournir un prototype. L'avantage de ça, c'est que...
Donc on parle bien d'un prototype de jeu de société.
Oui. Exactement, designé spécifiquement pour cette licence. Ouais. Donc sur Jetpack Joyride, on a reçu plus de 12 prototypes différents.
Ah oui.
Et c'est donc Michał Gąbowski, un Polonais.
Ah, tu le dis vachement mieux que moi hier dans le débrief. Hein. On voit que tu habites en Pologne. Ouais,
écoute, j'habite un peu là-bas maintenant, donc ça aide. Hein. Et donc Michał qui nous a fait vraiment un truc vraiment, vraiment, vraiment super. Qui a vraiment capturé l'esprit du jeu mobile. Ah ouais. Et encore une fois, nous, on aime vraiment ce format de petite compétition privée qui permet d'avoir des dizaines de designers qui vont réfléchir, qui vont nous soumettre des idées de souvent extrêmement différentes. Ouais. À jour, c'est la meilleure adaptation de jeu mobile qu'on ait fait pour moi. Ça se joue très bien. En plus, c'est en temps réel. Donc, tout le monde joue en même temps. Il y a pas de... Mais c'est un jeu temps réel sans chrono. Donc, c'est pas non plus vite.
C'est temps réel. C'est-à-dire, en fait, c'est les joueurs qui...
C'est le rythme des joueurs qui détermine la fin du tour. Et donc c'est un Kickstarter qu'on a fait au mois de juin 2018 et qui arrive en boutique en mai de cette année.
C'était ma question. À quel tarif du coup en
Alors voilà, c'est 20 euros.
Ok.
20 euros en boutique, une petite boîte. Et c'est vrai que c'est un jeu qu'on a mis sur beaucoup de salons et c'est généralement une table qui est constamment pleine et organiquement pleine. C'est-à-dire que c'est toujours ah bah attends reviens viens on a joué à ça. Il faut absolument que tu réessayes Jetpack Joyride.
Et du coup, alors, pour Jetpack Joyride, vous avez aussi négocié avec l'éditeur du jeu vidéo pour pouvoir faire une pub.
Absolument,
pour
à chaque fois. Donc, on ne démarre rien sans une licence officielle. Donc, c'est des contrats de licence.
Je veux dire, pardon, pour faire de la pub, je me doute bien que la licence, vous l'avez négociée.
Bien sûr.
Sinon, on en a entendu parler.
Oui, oui.
Il y a aussi la pub Lucky Duck sur le jeu vidéo Jetpack Joyride. Ils sont là partout.
Voilà. Absolument. Tous ces jeux sont des jeux free-to-play avec le même format que Vikings Gone Wild initial, en fait. Donc, ce sont tous des jeux en ligne avec une audience captive qu'on est capable de venir chercher.
Pour la sortie en boutique, vous allez refaire une pub dans
pour la sortie en boutique de Fruit Ninja, qui était un jeu qu'on a sorti l'année dernière, il y a eu 3 splashes dans le jeu vidéo. Alors ils appellent ça des splashes. Ouais, non, excuse-moi, c'est des jargons internes du. C'est des. Des pop-up qui permettent d'annoncer, de partager ces informations. Voilà, en fait,
vous arrivez à gérer par pays parce que les sorties elles sont peut-être.
Alors ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui savent le faire, qui ne savent pas le faire. Donc Fruit Ninja, eux, savent le faire et le localiser dans chaque langue.
C'est vachement bien.
Il y a d'autres jeux qui nous disent non, ça sera que dans une langue, donc on prend l'anglais généralement. Donc tous ces jeux jouent le jeu et communiquent sur l'existence.
Parce que la licence, j'imagine, du coup, tu reverses un montant sur chaque boîte, quoi.
Absolument.
Du coup, ils auront tout intérêt. Bien
absolument, ils ont tout intérêt, absolument. Bon, alors en même temps, Jetpack Joyride, Fruit Ninja, donc Half-Brick, je crois qu'ils ont plus de 14 licensors. Non, c'est licensee en anglais, donc c'est des licenseurs. Je suis désolé, je m'appelle Jean-Claude. Je ne parle pas français. Mais non, c'est, je ne sais pas comment dire. C'est que des contrats en anglais, en fait. Je ne connais pas le mot en français, je sens très
bien. Il m'a fait la même. Je sais déjà ce que c'est.
Mais vous avez compris, j'espère que
on a compris.
J'ai compris.
D'accord.
En gros, c'est des gens à qui ils attribuent la licence.
Exactement, voilà.
Il y en a déjà 14.
Voilà, il y en a déjà 14, oui. Il y a des. Enfin, bref.
Pour après d'autres produits.
Exactement. Donc, du coup, on est un petit peu plus noyé dans la masse. ici, mais sur d'autres, par exemple sur Kingdom Rush, qui est le prochain jeu dont on va parler après. On est les premiers, d'accord. Ils n'avaient jamais signé de contrat de licence avant. C'est moi qui ai amené mon contrat.
Bah oui. Et puis parle-nous de Kingdom Rush, peut-être.
Alors Kingdom Rush, c'est une. Alors c'est pas trilogie. Quand il y en a quatre, c'est une
quadrilogie.
Quadrilogie. C'est un jeu qui a. C'est un jeu mobile qui a plus de 8 ans. Une quadrilogie de jeux, c'est le grand-père du Tower Defense Mobile. Alors c'est un jeu pour le coup qui a beaucoup moins de téléchargements. Il n'y a pas 800 millions de téléchargements sur Kingdom Rush, mais par contre l'audience qui a joué à ce jeu est extrêmement captive. Et pareil que Jetpack Joyride. Alors là on a plus de 14 prototypes différents, et ce sont 3 designers canadiens cette fois-ci qui nous ont trouvé une idée absolument extraordinaire. Le vrai challenge d'un Tower Defense. Donc pour le Tower Defense, qu'est-ce que c'est ? Des monstres vous attaquent, ils progressent sur un terrain, et s'ils arrivent au bout, ils attaquent votre château, vous avez des points de vie, vous devez vous défendre. Le challenge de ça, c'est qu'en fait, c'est vraiment un genre qui existe sur mobile ou sur PC, et on a.
Et le vrai challenge, le retransmettre, c'est pas forcément évident.
En fait, ce qu'on n'a pas envie, c'est que le joueur joue l'ordinateur et trop de maintenance, à bouger plein de trucs un par un, de savoir combien il y a de points de vie sur chaque truc, et finalement de jouer le simulateur, voilà. Donc, et le génie de Elana Hope, Sen Fong Lim et Jesse Wright, ça a été en fait d'utiliser des cartes sur lesquelles en fait il y a des hordes de monstres, donc on les passe un par un, et ils utilisent des pièces Tetris entre guillemets, donc des polyomino qui vont permettre de recouvrir ces monstres. Donc c'est l'équivalent en fait de les tuer, mais tout ça c'est très élégant, et du coup ça fait en fait un puzzle. C'est un puzzle collaboratif où on va devoir se défendre. Chaque joueur a un héros avec une petite minifigure, donc c'est notre premier jeu avec du plastique et des minifigures, donc on a vraiment.
Et des figurines ?
Ouais, des figurines, voilà. Excuse-moi,
pas de souci.
Je sais toujours pas parler français.
on rappelle aux auditeurs que nous sommes le dimanche après-midi, c'est le dernier jour du festival. Tout le monde est claqué, nous y compris.
Pour la parenté, en fait, j'habite en Pologne depuis 6 ans maintenant et je ne parle plus français. Ma femme n'est pas française et mes collègues ne parlent pas français. Donc, à chaque fois que je reviens en France, je trébuche sur des mots que je ne me souviens plus en français. Donc je m'excuse à nouveau pour les auditeurs. Mais pour reprendre de Kingdom Rush, notre premier jeu à figurines, et en fait c'est un jeu à campagne. Voilà, donc en gros il y a une progression.
Et coopératif du coup ?
Coopératif, complètement coopératif, et qui passe des deux premières missions un peu tutorielles à 3, 4, 5 qui sont très difficiles. Évolue, avec un système de terrain modulaire qui permet vraiment de créer plusieurs niveaux. Et donc ça sera sur Kickstarter début avril, ou plutôt mi-avril d'ailleurs, enfin je crois que c'est 9 avril la date a priori, et qui sera en boutique en 2020. Voilà.
Ok, d'accord. Tu m'as donné envie de m'intéresser aux jeux, je ne les connaissais pas, enfin à part Jetpack Joyride, que Lydria nous a présenté hier et qui avait attiré ma curiosité aussi. Écoute, on va voir tout ça.
Très bien.
Du coup, on va passer au dernier jeu dont on aurait aimé parler.
Le jeu,
toi.
Tu veux dire le
jeu.
Excuse-moi.
Le jeu.
Chronicle of Crime. Voilà. Et alors, je crois que tu as ramené deux compères pour
absolument,
ça.
Absolument, voilà.
On va les appeler.
Ouais. Par la magie du montage, on va les ajouter dans cette interview. Donc, nous allons accueillir Stéphane Anctil et David Sicuel.
Très bien.
Bonjour, David.
Bonjour.
Et bonjour, Stéphane.
Bonjour.
Petit aparté avant qu'on démarre la suite de cette interview. Donc Stéphane Anctil, on précise, on le connaît très bien dans l'équipe, puisqu'il a fait partie de l'équipe de Proxy Jeux.
Il y a longtemps.
Il y a pas tant que ça. Hein. Il y a 2-3 ans peut-être, je ne sais plus. Voilà, donc il faisait la chronique avec sa fille.
Et maintenant, il fait la chronique du crime.
Ça va être un peu moins. Un peu plus sombre, on va dire. Voilà. Donc je laisse peut-être Vincent. Nous raconter un petit peu la création de Chronicle of Crime, puisque c'est le jeu dont il va s'agir.
Absolument. J'ai rencontré David. David m'a présenté le prototype de QR Crime. C'était février 2017. C'était il y a 2 ans, voilà. Et pour la petite histoire, j'aime bien raconter cette histoire, c'est qu'en fait, j'avais en fait investi des sous perso dans une société, dans une structure qui faisait des jeux hybrides avant, qui malheureusement avait coulé. Donc quand David me cherche un petit peu, il me dit j'ai un jeu hybride, je suis là, je sais pas si j'ai le temps. Puis finalement, il me coince dans une table dans un restaurant. Puis ce soir, on joue. Et puis, je joue au jeu. En 10 minutes, je tombe complètement amoureux du système.
Tu tombes souvent amoureux de des David. Jeux, non
non, mais je, non, non, pas, non, pas tant que ça. Mais là, j'ai vraiment très, très gros coup de cœur.
Pour et David.
Pour David. Non,
non pour le jeu, pardon.
Pour le jeu. Alors, on va parler de cette soirée torride. Et...
c'était pas donc, un restaurant en fait.
Et donc quelques mois plus tard eh bien, David et Lucky Duck, c'est une histoire qui se fait et on passe un sacré bout de temps à écrire ce logiciel et à travailler avec David sur ce jeu et ce long travail c'est soldé sur un Kickstarter juste après Cannes l'année dernière. Ouais. Qui a quasiment fait $1 million avec ce qu'on appelle les late pledges, c'est-à-dire les après-pledges, et qui s'est converti en un succès boutique hors norme pour nous, hein, puisqu'on a vendu plus de 100 000 boîtes de base depuis octobre, et même bien au-delà en fait.
À l'échelle mondiale.
Ouais, à l'échelle mondiale, ouais. Voilà. Le jeu aujourd'hui a été signé, je crois, dans 14 langues. Il est déjà sorti, il est même en Corée du Sud aujourd'hui.
Des pays qui se développent pas mal pour le jeu de société, effectivement.
Oui, absolument, oui. Et donc voilà, et donc de ce succès mondial du jeu est né du coup des extensions. Et Cannes, c'est la sortie officielle donc, de Noir, qui est une extension dont Stéphane et David vont vous parler.
Ouais. Alors, on va commencer peut-être par David. Est-ce que tu peux nous rappeler simplement le principe général du jeu en une minute, on va dire ?
C'est trop bien. Ça suffit. Pardon. Je suis une grande fan.
Il est marié.
Moi aussi, mais c'est pas grave. Ah bah, bravo. Je suis quand même fan du jeu.
Une belle mentalité.
Donc oui, David.
Oui, c'est un jeu collaboratif d'investigation policière. Ouais. Donc on est... On va être tous ensemble à essayer de résoudre une enquête policière. Et notre outil pour avancer dans l'histoire et dans l'enquête, ça va être le téléphone. Le téléphone va permettre d'interroger les suspects, d'avancer de lieu en lieu.
En gros, avec ton téléphone, on va scanner les QR codes qui sont sur les cartes.
C'est
et
ça.
Les suspects vont répondre, du coup, vont raconter une histoire en fonction
c'est
de ça.
Ça. Quand on veut interroger un suspect, on scanne le code du suspect et là, on l'interroge sur n'importe quel sujet. Mmh. N'importe quel sujet, ça veut dire toutes les cartes qui se trouvent sur le tableau d'indices. Parce que quand j'ai créé le jeu, l'idée à la base, c'était d'être devant ces grands tableaux d'indices qu'on voit dans toutes les séries policières. Mmh. Et ce que je voulais vraiment, c'est être avec mes potes devant ce tableau et me dire... Bon alors les gars, où est-ce qu'on en est là ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?
Putain, je connaissais pas ce talent d'acteur de David.
Ça
fait un an et demi qu'on travaille ensemble et c'est la première fois qu'il me fait une imitation.
Parce que, écoute,
je me sens perdu.
Moi je suis quelqu'un qui a fait pas mal de jeux de rôle, qui avait pas mal de jeux de rôle grandeur nature également. Et ce que je voulais, c'était retrouver ces sensations qu'on a dans ces enquêtes. Dans
plus
ces
immergé, enquêtes finalement.
Voilà, où on est immergé et où on vit l'enquête. Et donc, tout le système du jeu est là pour essayer de nous faire croire qu'on est des enquêteurs. Et j'aime bien aussi raconter cette histoire. Le plus beau compliment que j'ai eu actuellement, c'est un policier qui est venu me voir en me disant « Merci pour votre jeu. Je trouve que votre jeu est celui qui me rappelle le plus le boulot.
» C'est pas horrible, en fait. J'ai vu cet homme hier matin, il m'a redit la même chose. J'ai demandé sa carte de police, il est parti en courant. Donc je pense que c'est...
Moi, il me l'a donné, la carte de police.
Okay.
Et ce qui est surtout très malin, si je peux me permettre de rajouter, c'est que en fait, les réactions changent en fonction de la période de la journée dans laquelle on est. On peut très bien revenir interroger quelqu'un d'autre et il va nous dire autre chose. Ouais. Ça, c'est hyper malin. Quoi.
C'est de la période de la journée et de ce qu'on a appris.
Voilà, de ce qu'on a appris.
Ça veut dire que si on va...
changer de comportement,
même
des
de
choses
ce qu'on
comme
a fait
ça,
avec le personnage aussi.
Voilà,
si... En fait, il a des états, le personnage, comme une variable dans un programme.
Ouais. C'est ça.
Il y a une dimension aussi, la réalité virtuelle.
Oui, c'est ça. Ça veut dire que le petit truc en plus, c'est que lorsqu'on arrive dans un lieu important, comme la scène de crime par exemple, on peut voir la scène de crime en réalité virtuelle, avec ou sans 3D, au choix. Tout le monde n'aime pas la 3D, mais moi c'est ce que je préfère, c'est il y a le côté immersif où ça y est, on est à l'intérieur, on regarde, on doit décrire aux autres joueurs ce qu'on voit, et les autres joueurs doivent trouver les cartes qui correspondent.
Ok. Enfin, merci pour cette description précise du coup. Cette extension Noir qui sort aujourd'hui, enfin qui sort à Cannes, on va dire plutôt.
Oui, l'idée de Noir, c'était de ne pas faire seulement des scénarios supplémentaires, mais de renouveler l'expérience de jeu. On va plus être des policiers modernes de la police scientifique, mais on va être dans les années 1950, dans l'après-guerre, où on va jouer un détective privé. Et là, ça change tout, parce que on va plus pouvoir appeler sa maman. C'est, on va plus pouvoir appeler la police scientifique pour demander une analyse ADN.
D'accord. Oui,
Il fallait renouveler le jeu, en fait, changer complètement, garder le principe.
Je précise du coup, c'est Stéphane Anctil, donc qui a travaillé sur cette extension. Hein.
Stéphane Anctil a été le scénariste qui a écrit tous les scénarios. Okay. Et moi, j'ai plus travaillé sur toutes les mécaniques et s'assurer que tout fonctionne correctement.
Okay.
Il a fallu se mettre d'accord effectivement sur ce qu'on changeait. Donc, c'était évident qu'on allait abandonner le côté des experts, puisqu'on était dans les années 50 déjà. Et surtout, on incarnait un détective privé. Donc, mais il fallait quand même avoir des cartes action pour remplacer les experts, tout simplement pour les distribuer aux joueurs au début. Et au tout début, si je me rappelle bien, on a eu très rapidement l'idée de la corruption, qui est vraiment emblématique de ces années-là. Et on se disait même qu'on allait avoir des cartes différentes de corruption. Je ne sais pas si tu te rappelles que les joueurs auraient un pool comme ça de dollars, par 20 dollars, de paliers de 20 dollars, qui pourraient comme ça perdre et regagner au cours de l'histoire pour corrompre les gens, acheter des choses, payer un coup, un indique, voilà. Et en fait, le but, c'est toujours pareil, c'est de faire participer tout le monde autour de la table. Et d'éviter cet effet un petit peu leader avec la personne qui a le téléphone et qui dit.
Oui.
Et donc, on voulait à tout prix avoir ces quatre actions qui permettent à chacun éventuellement de prendre une action devant soi et comme ça de proposer, moi j'ai la carte corruption, je vais proposer d'acheter la personne qui n'a pas l'air d'être causante, ou au contraire, l'autre va dire, moi je vais plutôt l'intimider. Donc, on a l'intimidation, la corruption, la filature qui est très puissante, qui est une action qui a lieu une fois dans la journée. Donc, c'est une filature qui est généreuse pour le joueur, puisqu'on, même s'il l'a fait à 11h, on va lui dire ce que fait la personne à 14h. C'est aussi une question technique, on ne va pas faire une filature, nous, des textes de filature toutes les heures à actualiser, parce que c'est impossible. Enfin, c'est possible, l'appli pourrait le gérer, mais c'est juste pour nous à écrire, c'est impossible. Et puis pour le joueur, c'est très frustrant. Si tu rates des choses, ça ne sert à rien, ça génère juste de la frustration. Et donc on a ça, et on a également, mais fait perdre une heure, et on a également les fractions qui permettent de rentrer dans un lieu qui serait soit interdit, un vigile, on t'interdit le passage, scène de crime avec un flic devant, comme c'est sur la couverture de la boîte, par exemple.
Ok, très bien.
Et après, donc, on a amené un ton, on a essayé d'avoir un ton un peu différent. Alors, le jeu se cherchait encore pas mal au tout début, quand on avait fait avant qu'on commence le Kickstarter, même quand on était au tout début de l'extension, c'était pas du tout évident, parce que même le jeu de base, c'était très dur pour l'équipe de Lucky Dog de savoir à qui ça allait plaire. Puis finalement, on s'est aperçu que c'était un jeu qui a un spectre très large, c'est-à-dire qu'il plaît beaucoup à des gens casual qui d'habitude justement jouent pas à des jeux d'enquête trop compliqués parce qu'ils estiment que ça dure trop longtemps, il faut lire trop, ça dure 3 heures, etc. Ce qu'a su faire Chronicle of Crime, c'est amener un nouveau public un peu plus jeune aussi, grâce à l'utilisation du smartphone et de nouvelles technologies, et aussi de garder le pôle de joueurs de détective conseil et d'autres jeux d'enquête un peu plus hardcore. Donc c'est ça. Et donc le ton du jeu dans Noir, c'est vrai qu'on s'est dit, on va aller un petit peu plus loin, on va mettre un petit peu plus de maturité et des enquêtes un poil plus longues, mais quoi qu'il y en a aussi dans le jeu de base qui sont costauds, David.
Oui.
D'accord. Il y en a une en 3 parties même.
Ouais, voilà, je crois que c'est la troisième de ta campagne qui fait pleurer tout le monde. Les gens sont en PLS à la fin de la campagne. mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver le niveau de difficulté sur un jeu d'enquête. Ça, le gros challenge quand on écrit, c'est de savoir est-ce que les gens vont percuter. Donc on essaye nous beaucoup de faire des chemins en termes d'écriture, de faire plusieurs chemins. C'est-à-dire que si vous avez une information importante à découvrir, par exemple, où est-ce que Vincent a rencontré David, est-ce que c'est au bain mousse ou dans un restaurant comme il le prétend, on va avoir, par exemple, je peux avoir un témoignage direct du serveur du restaurant qui va me dire non, ils n'étaient pas du tout au restaurant, ils sont partis en soirée bain mousse. Ça, c'est une première chose. Je peux retrouver en faisant une perquisition, par exemple, chez Vincent, dans ses notes de frais, bain mousse à telle heure où il était censé être avec David. Donc ça fait deux façons d'avoir la preuve.
Voilà, mais Vincent n'a pas de micro,
c'est ça qui est bien.
Il peut rien dire.
On se voit pas assez souvent, Stéphane, merci.
Ça vous donne une idée de comment on fait deux chemins pour amener le joueur à comprendre un événement, un truc important. Donc c'est, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prévoir. Enfin, on peut pas vraiment le prévoir. Moi, je fais pas énormément de structure d'avance parce que c'est vraiment quelque chose qui vient dans la phase d'écriture grâce à l'éditeur de scénario qui est fourni par Lucky Doc. Éditeur de scénario qui a énormément évolué aussi avec les retours de nous, de Ghislain, de David, ouais, de tous les auteurs. Parce qu'au début, on avait un outil.
Vous avez commencé très à dire, c'est de la merde votre truc.
Non, ça a toujours fonctionné. C'est juste qu'il manquait des fonctions, en fait, ouais, parce que bah, on est exigeant, on pense à plein de trucs, on essaye vraiment de renouveler le jeu, parce que c'est facile de faire une enquête, mais quand il en faut en faire 4, 5, des choses comme ça, il faut renouveler les situations, donc faut pas être, voilà, faut pas se répéter, quoi. Et donc on avait besoin de nouveaux outils, et donc on les a eu au fur et à mesure, jusqu'à ce que, par exemple, dans Noir, on gère vraiment l'argent très finement. Et donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé de la corruption au tout début, on voulait des cartes. En fait, on se retrouve juste avec une carte d'action, mais en fait, la gestion de l'argent dans Noir, elle est gérée au dollar près. D'accord. C'est-à-dire que si je veux, demain, la prochaine enquête, je peux faire une enquête de jeu de gestion, quoi. C'est-à-dire, t'as un budget de $22 précisément, est-ce que tu réussiras à résoudre l'enquête, sachant que le taxi coûte 15, que tu peux revendre ton flingue 50, etc. Non, mais c'est vrai. Ça voilà. Mais ça, c'est des trucs qu'on découvre. Voilà. C'est des trucs qu'on découvre en cours de projet, quoi.
Ce que Stéphane dit sur le fait qu'il y a un jeu d'enquête, c'est où ça doit aussi se renouveler, et bah c'était aussi une idée de base que j'avais d'impliquer d'autres auteurs pour créer d'autres scénarios et d'autres univers. Et c'est vraiment une des collaborations qu'on a avec Stéphane depuis le début, c'est que je voulais pas que ça soit moi qui fasse toutes les enquêtes avec ma manière de penser. C'est important, et même dans le jeu de base, on le voit, il y a plusieurs auteurs qui ont fait des scénarios. Donc il y a peut-être des scénarios que l'on peut aimer et d'autres que l'on va moins aimer, mais c'est vraiment le scénario, c'est pas forcément la mécanique de jeu.
Très bien.
Ouais, l'important en tant qu'auteur, c'est d'amener son univers, en fait. Donc moi, j'amène toujours mes conneries historiques habituelles.
Il y en a beaucoup, des petites conneries cachées.
C'est ça.
Des auteurs torturés, tout ça.
Voilà.
Okay, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs.
Merci beaucoup, et merci pour
le
ça.
Temps que vous nous avez consacré. Et puis, c'était, on sent la passion chez vous sur tous ces jeux. Ça fait vraiment plaisir.
J'ai un dernier petit mot. Mais on n'a pas été au bain mousse. Hein. Je voulais juste le
non,
préciser.
Non, il n'y a pas de souci.
Au cas où. On ne sait jamais.
Pas encore.
Rétablissons la vérité.
Je joue ma carte intimidation.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien.